Bonjour Pierre.
Bonjour Jérôme.
Je suis très content que tu sois avec moi aujourd'hui parce qu'on a un sujet à traiter qui est magnifique et on va parler de tout ça tout à l'heure, mais on a aussi une petite histoire hein, que l'on a vécue ensemble. L'histoire de la cyber, évidemment.
Absolument, une histoire dans l'histoire.
Une histoire dans l'histoire de la cybersécurité. L'histoire de la cyber, donc c'est quelque chose hein, que je rappelle à nos auditeurs que j'ai monté. Pour justement mettre dans le marbre les grands jalons de la cybersécurité française. C'est un format aujourd'hui qui est plutôt statique hein, sur des stories type PDF hein, qu'on peut retrouver sur LinkedIn. Et je pense que le support, il pourrait intéresser beaucoup de personnes en webcast et podcast. Et évidemment, j'ai pensé à toi pour le premier. Et bah, pour commencer très rapidement, ne pas faire attendre nos auditeurs, bah, je vais te laisser te présenter.
Écoute, merci beaucoup. D'abord, c'est un honneur, évidemment, à la fois d'être ton invité et en plus de ça, dans le nouveau format que tu proposes. Donc, je vais essayer d'être à la hauteur de l'enjeu et de l'événement. Je m'appelle Pierre Devez. Je suis auditeur. On va simplifier un peu. Donc, mon profil général, c'est d'être un auditeur. J'ai eu la chance de devenir auditeur. Il y a de cela de nombreuses années, puisque j'ai passé la moitié de la feuille, hein, donc je suis au-dessus des 5 ans, donc je suis plus près de 100 ans que de ma date de naissance. Donc j'ai eu ce privilège de découvrir finalement l'audit et l'audit IT à travers des expériences d'avant Internet, d'avant le téléphone portable, etc. Donc en termes d'histoire, voilà, on a invité les vieux croutons à expliquer leur expérience. Alors en deux mots, donc mon expérience, une expérience d'auditeur, et puis évidemment une expérience de manager dans un contexte d'organisme d'évaluation de la conformité, donc ce qu'on appelle un organisme certificateur, puisque depuis 2012 et surtout en France depuis 2016, j'ai créé avec deux associés le groupe CertiTrust, qui est aujourd'hui centre d'évaluation, notamment pour la NSSI, donc pour les PACI, les PACS, tous les différents programmes régaliens, comme on dit. Et nous sommes également un organisme d'évaluation de la conformité dans le domaine de la sécurité de l'information, de la continuité d'activité. Alors, sécurité de l'information, qui dit sécurité de l'information dit ISO 27001, bien entendu. Et c'est dans ce contexte-là également qu'on a peut-être quelque chose à expliquer d'un point de vue hagiographique ou même historique, je
Clairement.
pense.
Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, on se connaît depuis quelques temps maintenant, hein, pour information. C'est que tu as
Ah,
été.
on se connaît depuis, ça fait 17 ans qu'on se connaît,
17 ans, ouais.
ça remonte très très loin.
C'est ça, c'est pour ça. Les prémices, là. C'était le prologue. Hein. Tu as été mon premier formateur cyber, en fait. Hein.
Un honneur de
Ouais,
plus, mon
voilà.
cher ami.
Et pareillement, et donc voilà, il y a quand même quelque chose de plus que de parler de l'histoire de la
Tu
cyber.
vois, Jérôme, on a fait quelque chose de toi,
Ouais, voilà,
finalement.
ben, j'espère, on verra si ça sera confirmé, mais
Absolument.
effectivement, donc ça c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, donc, un grand parcours, moi je le connais un petit peu, j'imagine qu'on pourra pas parler de tout, parce que juste les anecdotes et d'avoir fait des formations avec toi, je me rappelle encore des anecdotes, donc c'est incroyable. Aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous parler de l'arrivée des certifications de personnes? Déjà, qu'est-ce que c'est une certification de personne pour le décrire? Et l'arrivée des certifications de personnes en France, en Europe? Parce qu'aujourd'hui, on passe tous des certifications justement ISO 27001. Très souvent, enfin, beaucoup de gens de la GRC, 27005. Voilà. Comment ça arrivait dans le milieu de la cybersécurité?
Alors, comme toujours en histoire, il faut mettre un peu de contexte. Ça
Oui.
permet d'expliquer évidemment comment les choses se sont cristallisées et finalement ce qui a l'air aujourd'hui d'être absolument normal et parfaitement standardisé, industrialisé, comme disent nos amis chefs de projet. Ça n'était pas le cas évidemment. Il y a, on va dire, entre 25 ans et 20 ans d'ici. Donc l'arrivée de la certification de personne est en fait une réponse. La certification de personne dans le domaine de la sécurité de l'information, il y a eu finalement trois époques. La première époque, ce sont les certifications technologiques, ce qu'on appelle aujourd'hui les certifications éditeurs, qui ont existé depuis très très longtemps, dans les années 60, dans les années 70, donc au siècle dernier pour nos aimables auditeurs qui ne seraient pas nés avant l'an 2000. Donc au siècle dernier, 70, et même le début des années 80, c'était finalement la compétence technique qui était évaluée, et la plupart des ingénieurs, des techniciens de l'informatique, qu'on appelait à ce moment-là la DSI, mais au sens le plus littéral du terme, c'est-à-dire l'infrastructure technique, se formait sur les technologies, et donc il n'existait à cette époque, a priori, que des formations éditeurs. Donc, on va pas citer de marque, mais grosso modo, c'était c'était le jeu. Entre la fin des années 80 et la fin des années 90, donc sur une dizaine d'années, sont apparues sur le marché des certifications plus générales qui permettaient d'encadrer, en fait, et non pas de se spécialiser dans un domaine particulier d'une technologie spécifique, mais qui permettaient finalement d'embrasser de manière peut-être plus holistique les concepts, les exigences et les fonctions à remplir en matière de gestion de la sécurité. On parlait à ce moment-là non pas de la sécurité de l'information, c'est arrivé plus tard, fin des années 90, début des années 2000, on parlait de sécurité informatique. Et donc la sécurité informatique était considérée comme une sorte de processus, a été considérée comme une sorte de processus. Et là, ce qui est intéressant, avant d'expliquer finalement quelles étaient ces certifications, c'est d'expliquer aussi d'où ça vient. Donc quelle est la philosophie finalement sous-jacente à cette dynamique. C'est principalement les modèles japonais, et notamment le modèle Toyota, ce qu'on appelle le Kaizen, pour ceux qui font de la qualité, c'est un sujet qui leur parle. C'est un modèle qu'on a intégré également dans le Six Sigma. C'est également un schéma d'application et de gestion de projet. C'est en devenir le PDCA, le Plan Do Check Act des normes internationales modernes. Donc cette approche qui consistait à dire finalement on transforme une exécution industrielle par étape en un processus continu dont on analyse les extrants. En anglais, on dit les outputs, mais non, les extrants, afin de les améliorer d'une manière itérative. Et donc, cette logique de roue de la qualité, la roue de Deming, qui a été théorisée dans les années 60, donc c'était déjà assez antérieur, a été mise en œuvre finalement dans le domaine industriel et spécifiquement par Toyota et quelques grandes firmes qui travaillaient dans le secteur de l'automobile. Et ce modèle, en fait, a finalement percolé et s'est retrouvé également dans d'autres disciplines, dont la sécurité informatique. Et donc, à cette époque-là, on a commencé à voir émerger des certifications d'ordre général, comme les certifications de l'ISACA, qui est un organisme, une association au départ, qui s'est créée à Chicago dans les années 90, et qui a commencé à proposer des certifications non pas orientées sur la technique pure, mais orientées sur le management de cette technique. CISA, CISM, CGIT, etc., etc. Il y a également une certification particulière qui est apparue en 94, si je ne me trompe. Alors, nos auditeurs nous corrigeront si je me trompe de date, mais je pense que c'était aux alentours de 92 ou 94. Une certification phare que tout le monde connaît, qui est apparue, qui s'appelle le CISSP. CISSP, première version, qui était en fait une espèce de moyen terme entre la connaissance technique pure, ce qu'on retrouve aujourd'hui dans des modules comme le SANS, par exemple, SANS Institute, et l'encadrement, le management de la technologie, et spécifiquement dans la technologie de la sécurité informatique. Et donc ces certifications-là, elles ont ouvert la voie finalement à une manière nouvelle d'envisager la gestion des compétences, au-delà des purs techniciens à l'école bleue, de voir comment est-ce que les managers, les dirigeants des organisations qui ont une orientation. Et dans les années 90, c'est l'arrivée d'Internet, donc avec cette évidemment conséquence qui est l'interconnexion de plus en plus dense de tous les systèmes d'information, cette approche a fini par trouver son chemin. Et donc, dans la fin des années 90, sont apparues les premières normes en sécurité de l'information qui reprenaient finalement ce modèle. Et donc, inspiré de l'ISO 9000, qui lui-même s'inspirait des méthodes Kaizen, etc., on a créé une première norme, la 17799, donc c'était le ministère du Commerce britannique qui a mis en place une première norme en sécurité de l'information, cette norme étant, grosso modo, la grand-mère de toutes les normes dont on parle aujourd'hui, puisque c'était la première fois qu'on envisageait la satisfaction des exigences en matière de sécurité à travers non pas la réponse à une problématique technique, mais plutôt la réponse à un besoin de sécurité. Alors toi qui es un grand spécialiste de BIOS, les besoins de sécurité, ça te parle énormément, et je pense à nos auditeurs également. Et donc cette dialectique-là s'est installée progressivement entre les années 99 et grosso modo les années, la moitié de la première décennie des années 2000, puisqu'elle a mené à la création de la première version de la norme ISO 27001, première norme qui est finalement devenue la référence, on va dire la ligne de force, la baseline de la sécurité de l'information, norme qui a été publiée en première instance en 2005. Alors là, pour la petite histoire, cette norme était publiée évidemment en anglais, elle a dû être traduite, et c'est là que nous intervenons, la petite histoire dans la grande histoire, c'est qu'on a aussi eu l'occasion, et notamment sous la houlette de Mathieu Graal, qui a magnifiquement géré tout ça, Mathieu qui a été à l'honneur d'ailleurs dans un de tes podcasts précédents, en tout cas dans un de tes formats précédents, et donc avec Mathieu et plein d'autres personnes bien entendu, on a eu l'occasion de traduire la norme en français. Donc si aujourd'hui vous lisez, alors il y a eu des versions successives, moi j'y ai plus collaborer après, mais les mots choisis en français ont été longuement et âprement discutés. Donc, j'ai toujours pas répondu à ta question, bien entendu. Donc là, fin du contexte.
C'est parfait. Le contexte est bien établi, justement.
Donc, on se retrouve donc à cette époque, donc on va dire entre le début des années 2000 et le début de la deuxième décennie, 2010, dans une situation où des organismes alternatifs à l'ISACA et à l'IC2, qui étaient finalement les deux gros organismes de référence en matière d'audit d'une part et ou de sécurité, sont apparus des offres de formation d'une part et de certification des compétences orientées sur ces schémas. Donc évidemment, le schéma apparaissant, à partir de 2005, on a eu pas mal de propositions, un petit peu comme les champignons dans les bois au mois d'octobre, hein, on est de saison à part les champignons. Et donc les certifications sont apparues, certifications qui étaient relativement novatrices pour l'époque, puisqu'elles proposaient non pas simplement de cocher des cases ou de répondre à des questionnaires sous un format QCM relativement fermé, mais c'est des certifications qui devaient être finalement obtenues après avoir suivi une formation préparatoire, des études de cas, un niveau d'interaction beaucoup plus important, et donc une plongée, finalement, des professionnels dans un environnement, ou en tout cas des simulations, finalement, qui leur permettaient, en fait, de réfléchir non pas à « est-ce la bonne ou la mauvaise réponse ?», mais « quelle est la réponse ?». Et donc, ce format a persisté pendant plusieurs années, et la certification en sécurité de l'information a obtenu de plus en plus de succès. Alors, tu en es un des produits, puisque j'ai eu le plaisir de te former en 2008-2009, hein, on était à peu près dans cette période-là, peut-être juste avant le début des années 2010. C'était pas évident, c'est-à-dire que les candidats à ces formations étaient un peu dubitatifs au départ. Moi, je me souviens d'une des premières formations qu'on a faites en France. Alors, je pense que je peux le citer, il a pris sa retraite, et je le salue s'il nous écoute, il a toute mon amitié. Fred Messica, qui était donc le fondateur de Lynx Technologies, qui est devenu Sequoia, qui est devenu Sequoia.io, le mastodonte d'aujourd'hui était un cabinet conseil à l'époque. Et Fred a été le premier, en fait, à organiser une formation ISO 27001 en France. Et évidemment, à tout seigneur, tout honneur, rendons grâce à notre cher ami Hervé Schauer, qui était évidemment lui aussi en première ligne sur ces sujets, lui avec Alexandre Fernandez-Toro notamment, qui ont été évidemment des précurseurs français sur le sujet. Donc, entre 2005 et 2010, une évolution assez marquée, assez rapide, et un changement de paradigme par rapport à la gestion de la compétence. On formait donc des managers en GRC. Le sujet GRC, Governance, Risk and Compliance, s'est invité en fait aussi à la table des examens des candidats. Enfin voilà, donc pour donner un peu d'explication de contexte. Donc la date à retenir, je pense, c'est 2005, c'est le pivot vraiment le plus important en la matière.
Et on pourrait dire donc que le début des premières formations sur ces normes de management sont apparues en France en premier, ou est-ce que tu as vu l'effervescence un peu en Europe se croiser
Alors à l'époque j'étais encore donc avant 2012 j'étais encore en poste, je travaillais pour une compagnie d'assurance en trois lettres. Alors il y en a beaucoup, mais la mienne elle commence par A, elle finit par A. Donc j'étais responsable de l'audit pour la partie Nord-Europe. Donc je travaillais pas en France à l'époque, je travaillais dans les pays scandinaves, l'Allemagne notamment, la Belgique, les Pays-Bas. Et j'ai constaté en fait que c'était, on va pas dire mondial, parce que j'avais pas une vue mondiale à l'époque, mais pas qu'en France. Et effectivement, Aux États-Unis, ces normes avaient moins de succès parce que les Américains sont toujours restés sur des normes plus pratico-pratiques, NIST, voilà, du CISSP, du CISA, etc. Mais globalement, les pays scandinaves ont été très très moteurs à l'époque. Et la France, évidemment, n'était pas en reste puisque dès le départ, on était impliqués. Il y a eu un gros gros travail. Il y a ce qu'on appelle dans le monde ISO des comités techniques qui se réunissent évidemment pour préparer les normes et aussi pour échanger par rapport à quel est le contenu de ces normes, quelles sont les exigences, etc., etc. Donc ça vient de se faire encore récemment pour la 27001 puisque il y a 3 ans, elle a été remodifiée, notamment l'annexe A. Mais en France, il y avait une vraie communauté, je veux dire, qui était déjà établie. On était également dans la construction, donc le CLUSIF existait déjà. Alors je pense qu'il avait changé de nom assez, puisque c'était. Là, tu peux m'aider, toi. Tu es.
Le Club 27001, je pense.
Voilà, bah, en fait, non, c'était pas Club 27001, mais je pense. En tout cas, le CLUSIF avait déjà mis en place des méthodes de gestion de risque bien avant 2005.
Marion, Méhari,
il y a eu Meurice aussi qui venait du Québec, qui avait sur lequel on travaillait. Donc il y avait déjà des tentations d'intégrer la gestion du risque finalement dans le dispositif de la sécurité de l'information. Donc ça, je me souviens, c'était des échanges très intéressants justement entre 98, 99 et l'arrivée finalement de 27001 qui a, on va dire, plier le game, comme disent nos jeunes.
Nos jeunes, hein.
Voilà, je kiffe de plier le game, wesh, frère.
Donc, ils vont rire de
nous. on va revenir sur un champ lexical que je connais mieux. Donc, en l'occurrence, la manière de considérer la gestion des risques à l'intérieur de la sécurité de l'information et vice-versa, c'était finalement le tremplin vers EBIOS. Et en France... je pense que la France, les acteurs de la cyber, ce qu'on n'appelait pas encore la cyber, hein, parce que la cyber, c'est quand même relativement récent, c'est un terme récent, était très très fédéré autour finalement d'une méthode qui soit transposable. Et cette méthode a trouvé finalement sa concrétisation en 2010, donc je mettrai un deuxième jalon, 2005, 27001, 2010, EBIOS, première vie, première version, hein, parce qu'elle a évolué depuis. Mais là, on a vraiment senti qu'il y avait, un angle, qu'il y avait une direction qui était donnée, et que même si on est dans un écosystème qui est très vaste et très, très, finalement polymorphe, on se retrouve autour de grands sujets. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on ne s'y trompe pas, les personnes qui échangent, que je vois ça sur LinkedIn, que je vois ça dans les forums, que je vois ça dans les salons où je vais, et on se croise d'ailleurs régulièrement, finalement, ces dorsales-là, elles persistent. Et elle donne finalement une cohérence à la communauté de la sécurité informatique slash de l'information slash cybersécurité dans le paysage français. Et la France est certainement, si pas le pionnier, mais en tout cas en Europe, un des pays qui a été moteur de l'évolution et qui est aujourd'hui encore extrêmement actif d'ailleurs et très très présent, notamment dans les transpositions de directives. Enfin, la NSSI fait un gros travail déjà au sein de l'ENISA et par rapport aux directives européennes aujourd'hui qui traversent nos champs réglementaires. On s'aperçoit que la France a un discours qu'elle porte de manière assez audible et assez forte. Donc pour en revenir au sujet de la certification des personnes, cette intégration finalement et cette articulation entre la sécurité de l'information, le risque et la conformité, c'est vraiment quelque chose qui a évolué depuis les années 2010. J'ai envie de dire qu'on est aujourd'hui, la GRC de 2010 à 2025 n'était pas la GRC précédente, qui était plutôt des cases à cocher, une checklist à faire, etc. Alors le sujet est toujours abordé aujourd'hui sous cet angle-là. Hein, combien de fois est-ce qu'on ne voit pas des posts en disant déjà, moi je ne fais pas de la compliance sur le papier, je veux faire de la vraie compliance active, machin, etc. C'est très bien, je trouve fort bien qu'on dise ça. Mais moi je pense qu'on est déjà passé sur dans la plupart... finalement des terrains d'expérimentation sur lesquels on est nous confrontés en tant qu'organisme certificateur, on se rend compte que les audités, comme on les appelle, les clients, ont déjà passé ce cap-là et qu'aujourd'hui la conformité n'est plus simplement un passage obligé ou une checklist passive à compléter, mais plutôt un levier d'amélioration dans une logique voilà, justement de PDCA ou d'amélioration continue, pour le dire de manière plus générale.
Ça, c'est très important. Ça veut dire que c'est vrai que par rapport à ta position, tu as de réels indicateurs sur, on va dire, l'efficience, ou plutôt, je dirais, la proactivité des entreprises dans la cybersécurité. Et finalement, avant, c'était plutôt considéré comme un coût. Maintenant, on va peut-être pouvoir le voir comme une opportunité, puisque les entreprises sont amenées à comprendre ce que c'est une cyberattaque et tout le reste.
Alors,
c'est très
oui.
intéressant, ça.
Comme on a un peu de temps, il ne faut pas faire trop de slogans, donc je vais essayer de développer un peu, parce que c'est tout est toujours dans la subtilité de l'analyse des choses. Et donc, la conformité reste une obligation et reste un poids et un centre de coût pour les organisations. Dire le contraire serait un petit peu mentir, je pense. Mais néanmoins, la manière dont cette discipline est exercée peut permettre à l'entreprise de dégager des possibilités et d'avoir des leviers d'amélioration qui vont lui permettre, à côté de cet effort, de dégager des moyens et d'optimiser potentiellement des processus, d'améliorer les choses, de sorte que... Donc la conformité en soi, je pense que ça reste un mal nécessaire. Il faut essayer d'être non pas dans le fait de cocher les cases, c'est-à-dire de sortir de l'effectivité et d'essayer de s'inscrire dans l'efficacité, voire dans une perspective de rentabilité pour une entreprise, dans l'efficience, parce que finalement l'efficience, c'est l'efficacité rentable. Et donc, les personnes en charge de ces programmes dans les entreprises, pour moi, ont un objectif qui est finalement non pas simplement de satisfaire une exigence, mais de voir comment la satisfaire de la manière la plus efficace et la plus efficiente possible. Et c'est peut-être ça l'aspect de l'évolution de la GRC aujourd'hui, c'est d'arriver à rendre le sujet efficient, d'amener une exigence de sécurité. Prenons un exemple simple, ça va peut-être aider à positionner les choses. On peut mettre en place un système de contrôle d'accès dans une organisation. La norme ne dit d'ailleurs pas, si on se réfère à la 27001, la norme ne dit pas comment mettre en place un système de contrôle d'accès, elle dit qu'il en faut un. Et l'entreprise a donc la possibilité de mettre en place divers systèmes. Alors, on peut mettre en place des systèmes de scan de l'iris ou de GPS dans le fondement de chaque personne qui va rentrer. On peut mettre en place des barrières, des gardes de sécurité avec des casques, avec des... Voilà, tout ce que tu veux. Donc, on peut imaginer tous les trucs de science-fiction possibles et imaginables qui permettront d'assurer un contrôle d'accès extrêmement efficace. Mais peut-être qu'un simple badge ou un registre pour un accès à un local technique ou à une infrastructure qui ne soit pas sensible, ben, va permettre d'adresser le problème sans nécessairement dégager des moyens extrêmement élevés. Et donc, il y a une rentabilité à avoir. Alors, ça veut dire qu'on doit réfléchir, en mettant en place cette mesure, au sens qu'on donne aux choses et à ce qu'on veut protéger. Finalement, la gouvernance, c'est quelle valeur je donne à quel élément de mon organisation et comment j'adresse finalement cet actif, cette valeur au bon niveau, avec les bons moyens. Donc l'efficience, pour moi, c'est ça. C'est pas l'efficacité maximum, c'est l'efficacité la plus adaptée à la situation dans laquelle on se situe. Et là, dans une perspective finalement, dans la chronologie de l'évolution de la GRC, on s'aperçoit en fait que si on ne prend pas en compte le risque, on ne peut pas faire de la bonne compliance. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est finalement l'intention managériale, le G de GRC, la gouvernance. Ensuite, c'est l'analyse de l'existant et du contexte dans lequel finalement les choses se déroulent, où les actifs doivent être protégés, où les processus doivent être maîtrisés. Et puis seulement après, on a une manière d'attester de cela et de tracer finalement la continuation de cet effort GR. Ben, le C, c'est compliance, mais c'est aussi continuité. Donc c'est un aspect pour moi qui est relativement important. Et là, on a une évolution. On a noté une évolution assez importante dans la posture que prennent les organisations par rapport à ça, dans la posture que prennent les organismes d'accréditation, les organismes de certification. C'est-à-dire tous les acteurs finalement de l'écosystème sont en train de se repositionner. Alors, l'arrivée de la cyber en France, bon, je suis parti, moi, je suis comme le petit chien à l'arrière des voitures. Tant que tu roules, je bouge la tête. Donc, l'arrivée de la notion de cybersécurité en France, donc on va dire grosso modo, il y a pas une date précise, mais on va dire 2015, 2016, on a commencé à parler de ça vraiment, et puis c'est devenu très intense aux alentours de 2017-2019. Et aujourd'hui, bon, c'est devenu finalement on parle plus de sécurité de l'information ou très peu, on parle finalement de cybersécurité. La cybersécurité peut-être faut-il se remettre dans le contexte du moment, quand le terme est sorti, on parlait de protection des assets digitaux. Et donc la cybersécurité, c'était au départ une sous-discipline de la sécurité de l'information.
Voilà, de la SSI.
Alors c'est un peu comme quand on dit aujourd'hui un frigidaire pour un frigo, hein, on utilise, ou un BIC. Voilà. Ouais, donc le terme spécifique a remplacé le terme général. Ouais. Et donc aujourd'hui, on a dit cybersécurité, puis on a fait cyber, parce que c'était plus simple. Peut-être un jour, on dira si, ou je sais pas, hein, voilà, ou quelqu'un va inventer un nouveau mot. Voilà. Donc il y a une vague, ce qu'on appelle le hype sur des termes. Voilà. Donc la cyber, c'est 2015-2025, ça a vécu 10 ans. Je m'attends à ce qu'à un moment donné, on trouve un nouveau terme qu'un cabinet conseil bien avisé va proposer au marché. Mais il n'en reste pas moins que la cyber aujourd'hui, ça reste de la sécurité de l'information d'abord. Et donc, c'est de la GRC avec une composante technologique qui a été mieux réintégrée. Parce que finalement, c'est un effet de balancier. On venait de l'ultra-technique fin du XXe siècle, avec les formations éditeurs, tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a eu un mouvement de balancier vers la gouvernance, où on a survalorisé quelque part le process, etc. etc. Et ici, on a l'impression que le balancier est en train de se remettre finalement à l'équilibre entre la vocation technique des systèmes d'information et leur vocation procédurale. Et donc, la cyber, pour moi, est un peu, au jour d'aujourd'hui, tente, en tout cas, d'effectuer cette synthèse entre le digital et le technologique et la partie maîtrise et gouvernance. On parle aussi bien de SOC, de Blue Team, de Cyber Range, dans la même phrase que risk and compliance.
Oui, bien sûr.
C'était pas du tout le cas avant 2005 et certainement pas avant le début du
21e siècle. On ne se parlait même pas du tout.
Tout à fait.
Il y a le fameux débat, est-ce que j'ai besoin d'être technique pour être un risk manager?
Est-ce que le RSSI doit aussi être un DPO, là où on traverse en fait les enjeux politiques et qui ne sont pas spécialement techniques avec des enjeux de sécurité de l'information. Voilà.
Et qu'est-ce que tu penses maintenant du monde de la certification de personnes, dans le sens où c'est vrai qu'il y a énormément d'acteurs qui ont émergé, c'est devenu populaire dans le monde entier, on a des organismes plus connus, d'autres moins connus. C'est quoi pour toi le monde de la certification de personnes en 2025?
Alors c'est un sujet un peu difficile à cerner dans son ensemble, dans la mesure où aujourd'hui, selon moi en tout cas, ça c'est mon analyse, mes propos n'engagent que moi, la certification de personne devient finalement une commodité. On a besoin finalement de qualifier et on inscrit finalement ça dans une logique qui est une continuation du parcours académique. Donc la cyber, par exemple, si on revient sur le sujet de la cyber, en 2016, il y avait zéro formation cyber nulle part, dans aucune université, haute école, quoi que ce soit.
Oui,
aujourd'hui, champignons dans les bois, il suffit de se baisser pour en ramasser une. Hein. Donc toutes les écoles un peu convenables proposent quelque chose. Il y a ou des cursus, ou des options, en tout cas dans les écoles d'ingé. Même Polytechnique s'y est mis. Enfin voilà, quand je dis même Polytechnique s'y est mis, avec tout le respect, bien entendu, Polytechnique s'y est mis. Et donc la qualification des compétences, la certification des compétences, elle s'inscrit pour moi dans la continuité de ces parcours. C'est-à-dire que les gens, les étudiants choisissent des parcours académiques qui les amènent aujourd'hui à des disciplines de la cyber. Parce que quand on dit personne ne dit je suis formé en cyber. Le cyber, c'est beaucoup trop général. Je me réfère au catalogue des métiers de la cyber de l'ANSSI, c'est 62, je pense que c'était 62 métiers identifiés en première passe. Voilà, donc la cyber, c'est évidemment un monde en soi, même si c'est une niche, mais ça reste une grosse niche. Et donc la certification de personne, ça vient mettre finalement un tampon à un moment, un instant T, en disant, mais finalement, vous avez fait un parcours académique, ça c'est bien. Bon, en France, c'est important, ça reste important. Hein. On peut contester, mais je veux dire, le parcours académique est encore très, très pertinent pour la sélection initiale, en tout cas des profils juniors. Après 5-6 ans, on a besoin de faire une revue. Alors, c'est pas juste une évaluation. Cette certification de personne, elle intervient pour dire, OK, on va requalifier les compétences. Les normes évoluent, les enjeux évoluent, la technologie évolue, tout évolue, donc forcément, il faut se mettre à jour. Et pour moi, la certification de personne, elle est finalement un assez bon moyen, c'est un outil qui est relativement pratique pour pouvoir sanctionner une compétence, avec une périodicité finalement relativement rapprochée, ce qui permet aux entreprises de se rassurer sur la compétence et les aptitudes des personnes qui y travaillent. Alors, si on doit l'analyser d'un point de vue de marché, j'ai tendance à penser que on va vers un peu plus de concentration et un peu moins de dispersion. Il y a eu explosion de la certification de personnes. Je n'irai même pas jusqu'à dire qu'il y a des organismes indiens qui vous contactent par mail pour te proposer de payer 100 euros et de recevoir le certificat sans rien faire. Hein. Ouais, c'est comme acheter une fausse montre, hein. C'est un peu le même principe. Donc ceux-là, on les met de côté. Mais globalement, dans le monde et spécifiquement dans le monde occidental, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, Amérique du Nord, Europe, il y a eu explosion de l'offre entre 2010 et 2020. Après Covid, il y a eu modification. Certains acteurs ont disparu parce qu'ils n'ont pas su se transformer.
Ah oui.
On est passé d'un mode très présentiel à un mode ultra distanciel, notamment dans l'apprentissage et dans les examens également. Ce qui était avant, on interdisait aux organismes d'évaluer à distance parce que c'était pas suffisamment fiable. Aujourd'hui, on fait des KYC à distance, on fait des tas de choses avec reconnaissance faciale, surveillance à distance avec des outils automatisés. L'IA a fait une irruption évidemment dans le domaine de façon extrêmement marquée depuis 2023. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans quelques grands organismes travaillent finalement sur ces sujets et proposent globalement une offre intégrée. Alors, on parle de Coursera, on parle d'Udemy, on parle de... donc ça, c'est pour la formation. On parle ensuite de certificateurs comme le SANS, comme l'IC Square, comme CertiTrust, comme d'autres. Hein. Donc il y a évidemment encore une offre assez variée. Mais globalement, cette certification de personnes est aujourd'hui, à mon sens, en train de se reconcentrer. J'ai l'impression. Ouais. Et que le grand public, je veux dire, et les professionnels, les services achats des grandes entreprises, etc., cherchent à se rassurer aussi sur la pérennité, finalement, de l'offre, parce que ça devient un enjeu stratégique pour les entreprises, d'avoir des gens formés au bon niveau, et puis même pour le recrutement. Donc, il faut que ça vaille quelque chose. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur... voilà, c'est plus le Far West.
Voilà,
ça a été le Far West. Donc, voilà, quand on s'est rencontrés la première fois, on était encore dans le Far West. Ouais. Là, tout le monde avait son chapeau et ses boots, et puis on campait au coin du feu. Ouais. Aujourd'hui, c'est devenu un campus. On est quand même sur quelque chose de plus organisé, de plus structurant pour les filières. C'est très important aussi parce que ces filières, elles sont en tension. Aujourd'hui, des professionnels de la cyber... c'est pas facile d'en trouver. D'ailleurs, on constate, je n'accuse personne, mais on se fauche des ressources d'une boîte à l'autre. Moi, je vois passer, on a l'occasion de former des gens sur des programmes régaliens, on voit passer les noms de certains candidats d'une société à l'autre. Bah, depuis le nombre d'années qu'on le fait, on a vu des gens qui font le carrousel aux images, hein, c'est presque ça. Alors là, de nouveau, j'accuse personne, ça fait partie.
C'est
naturel, je veux dire, c'est systémique. Mais on s'aperçoit que les ressources étant en tension, le différenciateur devient utile. Il y a aussi, je pense que c'est un sujet que tu connais également, puisque tu as un peu travaillé dans ce domaine de la formation, du replacement des personnes, la requalification des personnes. Il y a aujourd'hui des gens qui était, enfin, je ne sais pas, je vais dire fleuriste, mais c'est peut-être exagéré, mais et qui aujourd'hui se lance dans la cyber.
Bien sûr, oui.
Y a des gens qui aujourd'hui font des parcours professionnalisants dans lesquels la certification individuelle a quelque chose à apporter pour sanctionner finalement la formation professionnalisante que ces personnes ont suivi, des niveaux BTS jusqu'à des niveaux master cycle 3, etc. etc.
Clairement, ouais.
Voilà.
Et j'ai une question aussi qui est importante, c'est sur les certifications de personnes, on a toujours une formation avant de passer l'examen, hein, donc c'est classique, sauf que le monde de la formation, il est vraiment en train de changer. Tu as parlé de l'IA tout à l'heure, hein, donc je vais citer évidemment les nouveaux modèles d'IA qui, comme dirait Bill Gates, pourraient remplacer, voire bouleverser le monde de la formation. Est-ce que si je te parle de certification de personnes et donc les formations qui vont avec genre pour 2035, tu vois ça comment ?
Alors, je vais répondre sous forme de blague. C'est une IA qui apprend à une autre IA à devenir compétente et qui va certifier les compétences de l'IA. Voilà, et puis nous, on va regarder tranquillement, on va boire un cocktail sur le bord de la plage. Bon, alors, plus sérieusement, l'IA est à la fois un sujet et un objet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sujet de l'IA fait que tout le monde doit s'y intéresser, on est prié de s'y intéresser, parce que finalement, c'est absolument nécessaire dans les métiers, en tout cas, qui sont les nôtres, parce que c'est un vecteur d'accélération et c'est finalement de la compétence augmentée. Moi, je le perçois de cette façon-là, en tout cas. Donc, l'IA est un outil voilà, qui permet d'aller plus vite. C'est comme un exosquelette cérébral. Je vais plus vite. Voilà. Oui. J'utilise des modèles de LLM pour rapidement synthétiser une note de réunion, un projet de courrier que je vais retravailler, etc. C'est ma secrétaire, finalement. Donc, ouais. Donc aujourd'hui, oui, il y a un usage de l'IA qui est finalement un accélérateur de productivité. Au niveau de l'apprentissage, au niveau de la compétence, comment mesurer la compétence? Si tout le monde se met évidemment à ne travailler qu'avec l'IA et que l'IA apporte une espèce de suprématie de contenu, on est déjà en train de le constater, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de contenus sont des contenus autoproduits, produits automatiquement plutôt, par des modèles IA. On apprend à les reconnaître. Alors, sur LinkedIn, quand on fait un peu attention, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont devenus des presse-boutons, finalement, et qui produisent du contenu à la chaîne. Le problème, c'est que ce contenu sert à manger au modèle d'IA suivant. Donc, on est en train, finalement... Alors, je n'aime pas dire ça, et je vais le dire d'une façon polie et non pas vulgaire, mais c'est un peu comme un ver de terre qui finit par manger sa propre déjection. Et donc, à un moment donné, quels sont les nutriments restants, si je reste dans la métaphore biologique, quels sont les nutriments restants à partir du moment où les IA modernes et chaque nouveau modèle d'IA va s'inspirer de contenus dont la majorité, à terme, seront des contenus qui ont été produits par des modèles d'IA précédents. J'ai l'impression qu'on est dans un modèle de régression intellectuelle plutôt que de progression intellectuelle. Donc sur ce plan-là, en tant que, l'IA en tant qu'objet, là, je pense qu'il y a des choses à réfléchir. Et par rapport à l'analyse des compétences, j'ai une anecdote que je peux expliquer. Oui. D'ailleurs, par rapport à ça, des personnes de mon organisation, notamment des auditeurs, ont préparé leurs examens avec des modèles IA, et certains ont raté. Alors, pas grave de rater, hein, on peut repasser l'examen, etc., etc. Et donc, en préparant, parce que en fait, ils ont quelque part mal appréhendé la problématique. Quand on leur demande de résoudre une étude de cas, ben, l'IA va proposer une solution générique, elle va utiliser les éléments qui sont à sa disposition dans sa mémoire, dans son système expert, et elle n'a pas une connaissance, on va dire, suffisamment large ou suffisamment holistique de tous les cas de figure et de tout ce qu'un auditeur a pu rencontrer. Et les auditeurs qui ont échoué en proposant finalement des réponses un peu toutes faites, un peu stéréotypées, ben, ils auraient réfléchi deux secondes, ils ont l'expérience. Donc je veux dire que ça aurait été beaucoup plus simple finalement, alors ça demande un plus gros effort, mais ça aurait été plus simple finalement de faire appel à son expérience, expérience qui n'est pas aujourd'hui suffisamment intégrée dans les modèles, même si on peut créer des systèmes experts d'audit, etc., ça existe, on y travaille aussi de notre côté. Mais moi je pense que c'est à la fois un bien et un mal. Et il faut mettre en place, à mon sens, dans les organisations, alors je ne dis pas que ça doit être général, hein, je ne plaide pas pour encore des réglementations particulières, il y a déjà l'IA Act, ça me semble très suffisant pour démarrer, mais ce qui me semble absolument nécessaire au niveau des organisations, c'est qu'elles puissent être, qu'elles puissent arbitrer quel est le bon usage de l'IA, quel est l'usage à éviter, et comment surtout ne pas alimenter sa propre, finalement, son propre contenu. Parce que s'il y a un écart ou une mauvaise interprétation initiale, on va reproduire l'erreur, on va amplifier l'erreur. L'informatique a toujours été un amplificateur d'erreur. C'est-à-dire que quand on dit, je ne sais plus qui disait ça, je pense que c'était le directeur du MIT qui disait informatiser quelque chose et vous allez fabriquer de la merde en série, en fait. Et donc c'était ça, excusez-moi d'avoir dit merde, mais le principe, c'est ça, c'est de se dire finalement, dès lors que je digitalise, dès lors que j'informatise, dès lors que je procéduralise d'une manière automatisée quelque chose, je dois m'assurer que c'est bien pensé au départ, parce que si c'est mal orienté, je vais très rapidement me retrouver en dehors, finalement, de l'exigence ou du résultat attendu. Et en IA, je pense que c'est aussi très, très important. On ne s'en rend pas forcément compte, parce que c'est des petites itérations, on pose des questions, on fait des prompts, on ne se rend pas bien compte que ça dérive. Mais à un moment donné, si vous mettez tous les collaborateurs d'une organisation ensemble et tout le contenu accumulé et qu'on remélange tout ça, ben vous allez mettre, en fait, des données de gens qui ont posé des mauvaises questions ou qui ont eu un mauvais raisonnement remélangés à part égale avec les raisonnements de gens qui réfléchissaient correctement. Et donc, on va médiocriser quelque part, les systèmes experts. Alors, on peut considérer que dans un certain nombre de circonstances, on vit dans une médiocratie. Je vais pas faire de politique, mais sur la question de la connaissance, pour moi, c'est un enjeu majeur, parce qu'il faut pas qu'on se rende imbécile, et que surtout, le niveau de compétence attendu ne baisse pas à l'aune, finalement, de ces systèmes d'IA. Oui. Donc on ne descende pas l'exigence, quelque part, de réflexion et de réalisation. Moi, j'ai rencontré des gens extrêmement compétents dans leur domaine. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, pourraient, à la limite, rater des tests préparés par des IA.
Incroyable.
Ce qui est quand même paradoxal.
Ouais. J'ai bien aimé ta métaphore de l'exosquelette cérébral. Et je pense que oui, on est vraiment aujourd'hui... Nous qui sommes à même d'utiliser beaucoup l'intelligence artificielle, on voit très bien que la médiocratie de l'IA, ce cyber-IA un peu pourri, il existe. Voilà, je sais que Montois, le chemin est tout droit. CertiGroup aujourd'hui, hein, peut-être aussi.
Alors, CertiTrust a rejoint aujourd'hui voilà. CertiGroup, puisqu'on a décidé d'augmenter finalement nos capacités ouais. sur le plan européen. Donc, depuis juin dernier, on a le plaisir évidemment de rejoindre la holding CertiGroup. Donc, évidemment, l'aventure continue. CertiTrust et ses sociétés sœurs que sont InfoCert, qui est spécialisée en antifraude et notamment les logiciels de caisse pour la fraude à la TVA, et Eurocompliance, qui est un grand spécialiste de l'anticorruption, CertiTrust apporte finalement à ces entités sœurs aujourd'hui des compétences supplémentaires en cyber et une ambition européenne très très affichée. Vous allez bientôt nous voir en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Espagne, voilà. Tout
l'histoire
ça,
continue.
On y travaille et avec plaisir et effectivement, l'histoire ne s'arrête jamais. On a fait un petit cliché aujourd'hui, on a fait une petite pause et je te remercie pour ça. Vraiment, j'ai réellement apprécié d'être ton invité aujourd'hui dans cette première version, du nouveau format. Et donc voilà, je me réjouis de voir le résultat et je remercie également nos auditeurs d'avoir regardé ce podcast et je vous dis à très bientôt. Merci Jérôme.
Merci Pierre.
Merci beaucoup.